Chapitre 41. Je suis d'abord allée à l'hôtel de ma tante à Cambridge. En femme économe, elle avait cherché les motels bon marché dans l'annuaire et vérifié les prix par téléphone avant de se décider. Comme elle avait dû se servir d'une carte bancaire pour faire la réservation, je me disais que, pour une policière, ce serait un jeu d'enfant de la retrouver. Le capitaine O n'avait qu'à suivre la piste de ses transactions jusqu'à la porte de sa chambre et montrer sa plaque pour que ma tante l'invite à entrer. Je me suis garée à une rue de distance. J'ai ordonné à Tulip de rester en voiture et je me suis approchée avec précaution en essayant de passer inaperçue tout en guettant le moindre signe de ma tante et ou de policier. Le motel, médiocre établissement anonyme, formait un fer à cheval sur deux niveaux autour d'un parking central. J'ai pris les escaliers couverts pour monter à la chambre de ma tante à l'étage. La porte était fermée, mais les rideaux de la fenêtre principale avaient été tirés afin de laisser voir une pièce dans les tons brun et or, tout illuminée, parfaitement rangée. Vide. Je suis restée là une minute avant de comprendre cette mise en scène délibérée. Aucune femme saine d'esprit ne laisse les rideaux de sa chambre d'hôtel écartés histoire qu'on voit toute la pièce, et ma tante ne laissait jamais les lumières allumées. Autant jeter l'argent par les fenêtres, vous voyez, et puis ça gaspille de l'énergie et c'est mauvais pour la planète. Le capitaine O, forcément. Pour que je sache que la chambre était vide, qu'elle détenait ma tante. Je suis retournée à la voiture de Tom, les mains bien enfoncées dans les poches de mon blouson, la tête baissée, les oreilles aux aguets, au cas où des bruits de pas rapides auraient annoncé une attaque par derrière. Mais rien. Juste l'obscurité d'un samedi soir glacial où les braves gens restaient bien au chaud dans le confort de leur foyer, heureux en famille. Tandis que moi je marchais dans les rues désertes de Boston, avec la certitude que j'arrivais trop tard, et que j'allais le payer cher. De toute évidence, le capitaine O avait retrouvé ma tante la première, mais elle ne l'avait pas étranglée au milieu de la chambre d'hôtel. Elle l'avait emmenée ailleurs. Pourquoi ? Parce que ma tante n'était pas chez elle dans cette chambre d'hôtel. Il fallait que les victimes meurent dans le confort et la sécurité de leur propre maison. Pourquoi ? Parce que nous n'avions jamais connu ni confort ni sécurité ? Ou pour que la terreur soit plus intense, plus insoutenable ? Inconsciemment, ma main s'était posée sur mon côté, je massais ma cicatrice. Et l'espace d'un instant, j'ai presque revécu ces sensations. Mes côtes, humides et poisseuses, mes jambes tremblantes qui voulaient fuir, le spectacle des flammes qui léchaient un mur, l'idée que c'était bizarre d'avoir si froid devant un feu. « 6 » m'appelait une voix. « 6 » « Désolée, j'ai dit. Désolée. » Mon portable a sonné. À quelques mètres de la voiture de Tom, j'ai répondu. « Ça y est. Tu te souviens ?» m'a demandé ma sœur. La maison était en feu. Cette chère maman, toujours le sens du mélodrame. Tu as étouffé les flammes. Sur le coup, ça m'a paru une bonne idée. J'ai hésité. 6. Tu m'appelais 6. Cette fois, elle n'a pas répondu tout de suite. Et quand elle l'a fait, sa voix était amère. Tu avais promis de toujours t'occuper de moi. Tu avais promis de me protéger, mais tu n'as pas tenu cette promesse, n'est-ce pas, Charlène ? Tu m'as abandonnée. Et ensuite, tu m'as complètement oubliée. Voilà comment tu aimes ta sœur, 6. Je ne savais pas quoi répondre. Aucune importance. Elle comblait déjà le silence. Dis-moi, Charlène, tu es toujours un bon soldat ? Pourquoi ? Parce que tout le monde doit mourir un jour. Courage, Charlie. Courage. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine, pas seulement à cause des mots eux-mêmes, mais de sa façon de les dire. Une voix d'outre-tombe. Ma mère qui chuchotait par-delà les années. « Je t'en prie, ne lui fais pas de mal, me suis-je forcée à dire d'une voix égale. Ça n'a rien à voir avec Tante Nancy. C'est une histoire entre toi et moi. » « Donc tu ne te souviens toujours pas. Qu'est-ce que tu veux ?» Ça, tu devrais le savoir. Dis-moi, je viendrai te voir. Tu devrais savoir où je suis. Alors j'ai su. J'ai compris. J'ai ouvert la voiture. Je suis montée dedans, téléphone toujours vissé à l'oreille. Accablée par ce qui allait nécessairement se passer. 21 janvier. Une journée qui couvait depuis 20 ans. Je t'aime, Abby. ai-je murmuré à la sœur qui s'apprêtait à me tuer. Souviens-toi que quoi qu'il arrive, je t'aime. Ma petite sœur m'a raccroché au nez. J'ai longuement réfléchi à ce que je devais faire. Toute ma vie, j'avais su au plus profond de moi-même que ma mère était folle. Certes, je ne m'appesantissais pas sur ce qui avait pu se passer précisément quand j'avais 2, 4 ou 5 ans, mais les flashs qui me revenaient de cette époque n'étaient jamais tendres ni chaleureux. Je ne revoyais pas ma mère en train de me lire une histoire dans mon lit, je ne l'associais pas à des cookies tout juste sortis du four. Par les froides nuits d'hiver, quand le vent hurlait dans les montagnes et faisait trembler les murs sous sa fureur ravageuse, je pensais à ma mère. Un sous-sol humide, un parfum de rouille, une odeur de sang, et je pensais à ma mère. Et le jour où j'étais tombée d'un agrès dans la cour de l'école, quand mon épaule avait fait un drôle de craquement à l'atterrissage et un bruit encore plus audible quand je m'étais jetée contre un arbre pour la remboîter, j'avais pensé à ma mère. Elle était folle au sens strict du terme. Imprévisible, instable, fragile. Le jouet d'ambition démesurée et d'accès de désespoir plus violent encore. Elle aimait, elle haïssait. J'étais sa préférée, sa chouchoute. Alors, sois bien sage et tiens-toi tranquille, pendant qu'elle me lâchait une boule de bowling sur le pied. Dans le monde de ma mère, aimer, c'était faire mal. Donc plus elle me faisait mal, plus je devais me sentir adorée. La folie est héréditaire, vous savez. J'ai passé la majeure partie de mon adolescence terrifiée à l'idée de me réveiller un beau jour avec le besoin irrépressible de blesser quelqu'un. J'allais me mettre à frapper mes amis, à hurler sur ma tante. Au lieu de faire compulsivement le ménage de sa maison d'hôte, j'allais saccager les chambres. J'allais me coucher Charlène Rosaline Carter Grant et me réveiller Christine Grant, terreur des petits-enfants du monde entier. Heureusement pour moi, ça ne s'est jamais produit. Mais je ne crois pas que ma petite sœur ait eu autant de chance. Ma première idée a été que ma sœur avait dû ramener notre tante dans le New Hampshire, dans sa douillette maison d'hôte nichée au cœur des montagnes blanches. Mais c'était à 3 heures de route au nord. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est folle qu'on est idiote. Ma tante accueillait des clients chez elle, donc la maison risquait d'être pleine de témoins. Bien mieux pour cette ultime réunion de famille, ma petite chambre à Cambridge. Dans une vénérable maison où ne vivait qu'une femme célibataire d'un certain âge. J'espérais pour ma logeuse qu'elle se serait absentée aujourd'hui. Mais je craignais que nous n'ayons pas cette chance. Je me suis garée de l'autre côté de la rue à l'observatoire. Passé 17 heures un samedi soir, le parking ne contenait que quelques voitures éparpillées. La nuit était complètement tombée et les lampadaires émettaient une faible lueur qui se réfléchissait sur les congères blanches. J'avais prévu de laisser Tulip dans la voiture, mais à la seconde où j'ai ouvert la portière, elle est sortie d'un bond en prenant mes genoux comme tremplin. Elle a décrit quelques cercles rapides dans le parking enneigé, manifestement contente de se dégourdir les pattes. Je me suis posé la question de la rattraper, de la forcer à regagner sa prison sur 4 roues, mais en fin de compte, je n'en ai pas eu le cœur. Au lieu de ça, je l'ai appelée une dernière fois. Je l'ai embrassée sur le sommet du crâne et je l'ai remerciée d'être le meilleur chien du monde. Elle a poussé un petit gémissement, remué la queue, secoué son pelage blanc et sable comme pour éviter de se refroidir. Puis elle a traversé le parking au petit trot, tournant le dos à ma maison, s'élançant vers des aventures qu'elle me raconterait peut-être un jour, si toutefois j'étais encore en vie pour les entendre. Je l'ai suivie des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin des immeubles en briques. Ma gorge était plus nouée que jamais. J'ai tâté les poches de mon blouson, tripoté l'écharpe serrée autour de mon cou. J'avais passé 1 an à faire des plans, à me préparer, à combiner des stratégies. Désormais, je n'entendais plus que les mots de ma mère dans un coin de ma tête. Tout le monde doit mourir un jour. Courage. J'ai traversé la rue vers la maison de ma logeuse, plongée dans l'obscurité. La rangée de fenêtres vides du rez-de-chaussée bâillait comme un sourire édenté lorsque je me suis approchée. Pas de lumière allumée sur le perron, pas de lumière dans le jardin de derrière pour m'accueillir. Peut-être que la porte d'entrée n'était pas fermée à clé, peut-être que ma sœur se trouvait de l'autre côté et attendait que j'entre. J'ai décidé de la prendre à revers. Elle voulait que je vienne, c'était évident. Nous avions l'une comme l'autre des choses à régler, donc je ne pensais pas qu'elle m'abattrait purement et simplement. Elle voulait parler. Je voulais écouter. Elle voulait tuer ma tante et me faire souffrir autant que possible. Je voulais qu'elle sache que j'étais désolée, que je l'aimais et que même si je ne savais pas comment réparer le passé, même si je doutais que ce soit possible au stade où nous en étions, j'aurais voulu le faire. J'aurais voulu que nous puissions toutes les deux repartir de zéro. Il n'y avait aucun signe de vie dans la rue quand je me suis dirigée vers la clôture qui menait au jardin de derrière, quand j'ai ouvert le portail et que je l'ai refermé en douceur derrière moi. Désormais à l'abri des regards curieux, je me suis approchée de la porte de derrière, celle dont je me servais habituellement. Profonde inspiration, profonde expiration. J'ai frappé. 3 fois. Toc, toc, toc. Et 10 secondes plus tard, elle a ouvert. Derrière elle, le couloir était sombre et peuplé d'ombre, alors que j'imaginais que dans mon dos, le ciel nocturne de Cambridge était illuminé d'une faible lueur urbaine. Elle portait un jean noir et un pull noir moulant. Elle semblait plus svelte et plus dangereuse que le capitaine O, avec ses cheveux tirés en arrière en une queue de cheval serrée, et ses yeux qui lançaient des éclairs derrière d'étranges lentilles de contact bleu. En la regardant, je voyais ma mère. En la regardant, je me voyais. « Bonjour. Je m'appelle Abigail. » Elle m'a montré une seringue hypodermique dans sa main droite pointée vers moi. « Ton bras. Qu'est-ce que c'est ?»« Tu es bien placée pour savoir qu'il ne faut pas poser de questions. Alors sois sage et fais ce que je te dis. »« Non. Charlène Rosaline Carter, notre mère est morte. » Je ne reviendrai pas en arrière et tu ne devrais pas le faire non plus. Nous sommes sœurs, et on ne traite pas sa sœur comme ça. Ton bras. Non. J'ai fait demi-tour. Si tu pars maintenant, elle meurt, m'a-t-elle dit d'une voix suraiguë. 8, peut-être 9 minutes, c'est tout ce qui reste à ta tante. Mais peut-être que tu t'en fous. Peut-être que c'est ta spécialité de laisser mourir ta famille, 6. Elle avait employé mon ancien surnom. Ce que je considérais comme une sorte de victoire. Un premier pas vers les souvenirs que nous avions toutes les deux enfouis. Si je voulais survivre aux 15 prochaines minutes, il fallait que je me souvienne d'une grande partie de mon enfance. Quant à Abigail, je voulais qu'elle se souvienne au moins de certains moments où elle ne m'avait pas haï à ce point, où elle m'avait peut-être même aimé un peu. Je me suis retournée vers elle. Elle a de nouveau pointé la seringue. Après un nouvel instant d'hésitation, j'ai tendu le bras. Elle a agi en un éclair avant que je change d'avis et planté l'aiguille dans la chair de mon bras à travers le blouson. Je n'ai pratiquement rien senti. Une faible piqûre d'épingle, ça aurait pu être un gravillon dans le tissu de ma chemise. Elle a appuyé sur le piston et tout a été fini en 1 millième de seconde. Abigail m'observait. J'ai soutenu son regard sans ciller, en m'attendant à ressentir quelque chose. Un malaise, une brûlure au fond de la gorge, peut-être un picotement dans le bras. La plupart des tours que nous jouait notre mère visaient une gratification immédiate, mais je ne sentais rien. Abigail a hoché la tête, apparemment satisfaite, puis elle m'a obligée à lui donner mon blouson, me privant immédiatement de la plupart de mes armes artisanales puisqu'elles étaient cachées dans mes poches. Ensuite, elle m'a fouillée et dépouillée de mon portable, mais elle n'a pas trouvé le stylo bille coincé dans mes cheveux, ni le couteau dans son étui en scotch sous mon jean effiloché, mes épaisses chaussettes en laine et mes bottes de neige éculées. Cet examen accompli, elle a ouvert la porte en grand pour me laisser entrer dans le couloir sombre. Randy ne l'a même pas senti, m'a-t-elle raconté comme si ça pouvait me consoler. Ton autre amie, Jackie, elle s'est retournée quand je l'ai piquée. Je lui ai dit qu'elle avait un genre d'épine coincée dans la manche de sa chemise et elle m'a cru. En revanche, tante Nancy m'a vu arriver avec. C'était voulu, je voulais qu'elle sache. Passant devant ma chambre, Abigail m'a conduite dans le grand séjour qui contenait plusieurs coins salons et la cuisine. Je ne m'étais pas trompée. Ce n'était pas notre jour de chance. Tante Nancy et Frances, ma logeuse, se trouvaient toutes les deux là. Avachie dans un fauteuil à oreilles décolorées, Frances semblait pâle et affaiblie. Plus près de moi, ma tante était allongée sur le canapé fauve, les yeux fermés, et ses paupières palpitaient de manière inquiétante. Je me suis tout de suite ruée vers elle pour prendre son pouls. Je l'ai trouvée. Mais il était faible. Sa peau était moite et elle était agitée de tremblements irrépressibles. « Qu'est-ce que tu as fait ? » « Tu veux dire qu'elle n'a jamais essayé ça sur toi ?»« Quoi ? » « L'insuline. Pour faire chuter la glycémie. Provoquer un coma, éventuellement la mort, ou t'envoyer faire un tour gratuit aux urgences. » Elle a prononcé ces mots avec désinvolture. J'ai compris les histoires indicibles qui se cachaient derrière. Les innombrables crises qu'elle avait dû endurer aux mains de ma mère. J'aurais voulu lui offrir ma compassion, mais je me suis dressée face à elle, les pieds bien plantés dans le sol, et j'ai plaidé ma cause. Je suis là. Tu as tout ce que tu voulais. Laisse-moi donner quelques morceaux de sucre à Tante Nancy et à Fran. Elles n'ont pas à payer pour moi. Du glaçage, a répondu Abigail. C'est plus efficace. J'en ai donné à tes deux copines juste à la fin. Autrement, les analyses post-mortem auraient révélé leur hypoglycémie et trahi mon petit manège. Mais avec un peu de glaçage au bon moment, tu en trouveras une bombe derrière toi, sur le plan de travail de la cuisine. Son accord immédiat pour que je soigne ma tante et ma logeuse m'a prise à contre-pied. Au lieu d'être soulagée, j'étais encore plus à cran quand je me suis dirigée vers la cuisine plongée dans le noir. Alors que j'arrivais à l'îlot central, mes jambes m'ont soudain lâché. J'ai trébuché et manqué tomber. Secouant la tête, j'ai cligné des yeux pour lutter contre un brusque accès de vertige. L'insuline commençait à faire effet. J'ai pris la bombe argentée au milieu du plan de travail et je suis retournée auprès de ma tante et de ma logeuse. « Je t'autorise à la randonnée, mais prends-en pour toi et je te tire une balle. » Abigail avait rempoché la seringue. Dans sa main, elle avait maintenant un Sig Sauer de calibre 40. « Et tu te priverais de tout le plaisir ?» lui ai-je demandé d'un air dégagé. « Je n'ai pas dit que je te tuerais, juste que je te tirerais une balle. » Il m'a fallu quelques instants pour comprendre comment faire marcher le pulvérisateur vendu avec 4 douilles décoratives. Glaçage blanc, parfum vanille. Décorer un gâteau, arracher un être cher à une mort imminente. Mes mains tremblaient. Il me fallait faire un effort de concentration pour que mes doigts m'obéissent. Je me suis d'abord occupée de ma tante qui semblait plus mal en point. Ensuite, je suis passée à Frances et j'ai mis la douille dans sa bouche entrouverte pour y injecter du glaçage. Ensuite, je me suis écartée et ma sœur et moi les avons observées. « Comment tu es devenue le capitaine O ?» lui ai-je demandé. J'étais à 2 mètres d'elle, légèrement en avant, et son Sig Sauer était braqué sur mon épaule gauche. Comme aucune lampe n'était allumée, la pièce était plongée dans l'obscurité, et des blocs de tailles diverses signalaient l'emplacement des meubles ou autres objets derrière lesquels s'abritaient. Je pensais que le manque d'éclairage me donnait l'avantage, puisque les lieux m'étaient plus familiers, mais c'était quand même elle qui tenait le pistolet, et elle le maniait avec beaucoup d'aisance. « Un client, » m'a-t-elle répondu. « Un client ?» Ses traits restaient inexpressifs, durs. Un visage de flic, un visage de victime. Je n'avais encore jamais réalisé à quel point les deux se ressemblaient. Quand j'avais 14 ans, j'ai quitté cette chère maman. Nous vivions dans le Colorado à l'époque. Elle avait arrêté de me martyriser et elle s'était mise à me vendre. Elle n'était plus aussi jolie qu'avant, tu vois, et il fallait bien payer le loyer. Elle continuait à ramener des hommes à la maison, mais ils ne restaient plus dans sa chambre. Je n'ai rien dit. Une nuit, je me suis dit que, tant qu'à vendre mon corps, je devais être maîtresse à bord. Alors j'ai attendu le bon client, un mec plein aux as, tu vois, et je lui ai mis le marché en main. S'il m'emmenait, je deviendrais sa propriété exclusive. En fin de compte, j'avais bien choisi. C'était un brillant avocat, il avait beaucoup de moyens et il s'était toujours vu comme un de ces riches qui entretiennent une poulette en sous-main. J'ai obtenu d'avoir un appartement à moi et, en négociant encore un peu, une nouvelle identité. Pour que ma petite maman d'amour ne puisse pas me retrouver et m'emmener, tu vois. Tout cela en toute légalité, ça va de soi. C'est l'avantage de se prostituer avec un ténor du barreau. Au bout du compte, je me suis inscrite à des cours en ligne et j'ai décroché mon diplôme d'études secondaires. Mais ça a coincé quand j'ai eu mes 18 ans. Je voulais aller à l'université, alors que lui voulait me garder dans une cage dorée. Elle s'est interrompue. Sur le canapé, ma tante a gémi, ses paupières ont battu, se sont ouvertes. Elle nous a regardées toutes les deux, mais son regard était encore inexpressif. Je n'étais pas certaine qu'elle voyait quoi que ce soit. « Quand est-ce que tu l'as tué ? » ai-je demandé sur un ton badin. Abigail a souri. « Ce n'est pas ça, la date importante. Tu devrais la connaître, la date importante. » « Le 21 janvier. » « Tout juste. Mais pourquoi, Sis ? Qu'est-ce qui s'est passé le 21 janvier ?» « Dis-moi. » Je l'observais. J'essayais de me souvenir de nos années communes, de ce passé que je m'étais tellement appliquée à oublier. « Ton anniversaire ?» Elle m'a regardée bizarrement. « Non. » « Le mien ?»« Je t'en prie. Le tien est en juin. » Frances était réveillée. Sa respiration avait changé, elle était plus régulière. Elle ne s'était pas redressée dans son fauteuil, mais je voyais bien qu'elle reprenait conscience. Je me suis demandé si Abigail aussi s'en était aperçue. Mais ma sœur ne prêtait aucune attention à ma tante ni à ma logeuse. Elle me fixait du regard. Elle semblait, pour la première fois, hésiter. « Tu as vraiment oublié tout ça ?» J'ai haussé les épaules, mi-humiliée, mi-honteuse. La plupart des choses, oui. Même moi ? Je suis désolée, Abigail. J'ai essayé plein de fois de me souvenir, mais je te jure, Tu es un bébé et ensuite tu n'es plus là. J'étais absolument certaine qu'elle t'avait tué, comme Rosalind, comme Carter. Ces magnifiques petits bébés, si parfaits et précieux, et là, je l'ai vu tuer le petit garçon. C'est vrai ? Je me souviens de tout. Il pleurait et elle a pris un oreiller. Plus grand que le bébé lui-même, elle l'a maintenu sur lui. « Voilà ce qu'on fait au bébé qui braille, Abigail, » elle m'a dit. « Évite d'être une brailleuse. »« Tu devais toi-même être toute petite ?»« Je crois que j'avais 2 ans. Tu devais en avoir 4. »« Comment tu peux te souvenir de ce qui s'est passé quand tu avais 2 ans ?»« Comment tu peux avoir oublié ce qui s'est passé quand tu en avais 8 ?» Ma tante, qui s'était redressée, a bougé la main. Je voulais mourir. Je me suis réveillée à l'hôpital et les médecins disaient qu'ils m'avaient rafistolée, que ça avait été tangent mais que j'allais m'en sortir. Pourtant, au lieu d'être reconnaissante, j'avais envie de les tuer pour m'avoir sauvée. J'étais tellement en colère, tellement déprimée. Je me suis éloignée d'un pas de ma tante vers la porte de derrière. Je voulais que l'attention d'Abigail me suive et se détourne des 2 femmes qui se réveillaient. « Je crois qu'il fallait que j'oublie, » ai-je expliqué avec franchise à ma sœur. « Je crois que c'était la seule solution pour que je me rappelle comment vivre. »« Elle t'a tué. Elle t'a donné un coup de couteau. Ça aussi, je l'ai vu. »« Il y avait un incendie. »« Tu t'en souviens ?»« Je me souviens du sang et des flammes, et de m'être dit que c'était bizarre d'avoir tellement froid. »« Elle avait voulu mettre le feu à la maison. »« Après m'avoir donné un coup de couteau ?» Oui. Elle s'en était d'abord prise à toi, mais ça, je ne l'ai pas vue. Elle était remontée à l'étage pour me chercher. Et puis après, on était dans la cuisine, elle avait des allumettes et je ne pouvais pas m'enfuir. Elle allait nous brûler vives, mais tu es arrivée derrière elle, et tu l'as frappée à la tête avec une grosse lampe ancienne. J'ai fait ça ? Elle m'a regardée et j'ai eu la récompense de voir naître un semblant d'incertitude dans ses yeux. Tu ne t'en souviens vraiment pas ? Je voudrais bien. J'aimerais bien me souvenir que je lui ai fait mal. J'ai surtout l'impression d'avoir essayé toute ma vie d'apprendre à être moi-même, comme si elle s'était insinuée dans ma tête quand j'étais trop jeune pour résister et qu'il m'avait fallu 28 ans pour découvrir ce que je pensais pour être moi-même. Notre mère était folle, Abigail, et nous étions trop petites pour lui résister. Mais nous sommes adultes maintenant et elle est morte. Elle n'a plus à être aux commandes. Nous pouvons être nous-mêmes. Nous pouvons enfin gagner. J'ai essayé de la tuer cette nuit-là. A murmuré Abigail comme si je n'avais rien dit. Tu étais morte, enfin, je le croyais. Elle se réveillait et je ne pouvais pas survivre sans toi. Je le savais, Charlie. Déjà à l'époque, je savais que je n'étais pas assez forte. Alors j'ai pris la lampe et j'ai voulu la frapper. Mais avant que je puisse réagir, elle m'a fauché les jambes. Je suis tombée et pendant que j'étais par terre, elle a pris la lampe et elle m'en a filé un grand coup. J'ai sursauté. J'ai senti un frisson. Non. Une onde de choc parcourir mon corps. Sur le coup, je n'ai pas su si c'était l'insuline qui faisait dégringoler ma glycémie ou la remise en cause radicale d'un souvenir depuis longtemps enfoui. « Je t'ai vu mourir, » ai-je soufflé. « Elle t'avait tué. Avec la lampe. Je me souviens de ça. Et je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais ni lever le bras, ni hurler, ni supplier, rien. J'étais paralysée au sol. » J'avais trop froid et trop chaud, et je hurlais à l'intérieur, je me souviens de ça. D'avoir senti tout mon corps hurler intérieurement quand tu es tombée et qu'elle s'est relevée, mais aucun son n'est sorti. Rien ne s'est passé. Je hurlais et elle était là avec la lampe, elle la levait et elle la battait. Elle te tuait. Je t'avais protégée si longtemps, Abby. Tu n'as même pas idée. Les nuits où j'avais fui avec toi dans les bois, où je t'avais cachée sous le lit, planquée dans les combles, je n'avais pas réussi avec les autres. Je n'avais pas été assez intelligente, assez forte. Mais avec toi, quand tu as eu 3 ou 4 ans, je me souviens d'avoir pensé que j'avais réussi. Je t'avais sauvée. Tu étais à moi et je t'aimais. Je t'aimais, Abigail. Ma voix affaiblie s'est brisée. Mon corps s'est mis à frissonner de plus belle tandis que mes pensées se dispersaient, s'éparpillaient, refusaient de se rassembler. Je perdais pied. Glycémie en chute libre. Confusion, désorientation. Douleur, douleur intense. Ma petite sœur était morte. Et par une bizarrerie de mon cerveau, je ne m'en souvenais pas, mais je le savais. Je croyais avoir vu Abby mourir, et cela avait provoqué en moi une cassure qu'aucun médecin n'avait pu rafistoler. « Mais je ne suis pas morte, » a dit Abigail. Ses mains aussi tremblaient. Le pistolet s'agitait. J'aurais dû agir, en profiter. Impossible de me faire obéir de mes jambes. J'ai voulu m'appuyer contre le mur. Le monde chavirait de nouveau. Je cherchais désespérément un équilibre. Je ne m'étais pas entraînée à ça, me suis-je dit. Je n'étais pas préparée à cette complication. « J'ai survécu, » a continué Abigail d'une voix rauque, à la fois pleine d'accusations et de regrets. Elle m'a emmenée et ça a été horrible, abominable. Et j'ai prié pour toi toutes les nuits, Charlie. Tu étais ma grande sœur. Tu avais promis de me sauver et je priais pour toi, nuit après nuit. Quand j'ai eu 10 ans, il y a eu le premier homme et j'ai eu mal. J'ai pleuré et j'ai supplié pour que tu viennes me sauver. Mais tu n'es jamais venue. Tu ne m'as jamais sauvée. Alors quand j'ai eu 14 ans... Je me suis vendue à un pervers professionnel juste pour m'en sortir. Mais ça n'a quand même pas suffi, alors j'ai dû le tuer. Mais ça n'a pas suffi non plus, alors j'ai dû la retrouver pour la tuer aussi. Je pensais que ça me soulagerait. Mais en fait, ça ne suffisait toujours pas. J'ai dévisagé ma sœur. Tu as tué notre mère? Bien sûr. Elle a souri. Dis-moi quand? Un 21 janvier. Tu l'as tué un 21 janvier. Voilà. Enfin, tu comprends. J'ai pris son oreiller et j'ai fait ça exactement comme elle me l'avait appris. Je me suis demandé si j'aurais dû être horrifiée ou reconnaissante. Mais ça aurait dû être fini à ce moment-là. Ça aurait dû suffire. Mais non, bien sûr, parce qu'il restait encore toi. Celle qui n'était jamais venue et qui ne m'avait jamais sauvée. « Je ne savais même pas que tu étais en vie. »« Mais si, tu savais. »«
Mais non, comment j'aurais su ?»«
Parce qu'elle a dû te le dire. » Abigail s'était retournée pour montrer du doigt tante Nancy, qui, désormais bien réveillée, nous observait toutes les deux.
« Je suis désolée, » a éclaté ma tante. « Charlie, je suis vraiment désolée. »
C'est alors que Frances soudain a bondi du fauteuil et, avec un rugissement inattendu, s'est jetée sur Abigail. Le coup de feu est parti. Je me suis effondrée. Ça criait. Frances, tante Nancy, Abigail.
Six!
La voix d'Abigail.
Ma petite sœur qui m'appelait. Six!
J'ai attrapé la bombe de glaçage qui roulait sur le parquet et j'ai rampé.